Chapitre 6. En le comparant avec le chapitre qu'on vient de lire, le lecteur pourra corriger quelques erreurs dont il a pu se rendre précédemment coupable dans l'application du mot « amour ». L'infidélité de Molly que Jones venait de découvrir aurait peut-être justifié beaucoup plus de ressentiment qu'il n'en fit paraître en cette occasion. Et si, dès ce moment, il l'eût abandonnée pour jamais, je crois que peu de gens l'en auraient blâmé. Il est certain cependant qu'il la vit avec compassion, et que si son amour pour elle ne fut pas de nature à ce qu'il dût s'affliger beaucoup de son infidélité, il n'était pas peu troublé en pensant que c'était lui qui avait d'abord corrompu son innocence, car c'est à cette corruption qu'il attribuait le vice dans lequel il paraissait probable qu'elle allait se plonger. Cette crainte le troubla extrêmement, jusqu'à ce que Betty, sœur aînée de Molly, fût assez bonne pour l'en guérir, en lui donnant à entendre, peu de temps après, qu'un certain Will Barnes avait été le premier séducteur de Molly, et que le petit enfant que jusqu'ici il avait considéré comme le sien, pouvait, avec autant de droit au moins, réclamer Barnes pour son père. Jones s'occupa vivement d'éclaircir ce fait, et il acquit en très peu de temps la certitude que Betty lui avait dit la vérité, non seulement par l'aveu de Barnes, mais à la fin par celui de Molly elle-même. Ce Will Barnes était le galant du comté et avait conquis autant de trophées de cette espèce qu'aucun sous-lieutenant d'infanterie ou clerc de procureur dans tout le royaume. Il avait entraîné plusieurs femmes dans l'abîme du libertinage, avait déchiré le cœur de quelques autres et avait eu l'honneur de causer la mort violente d'une pauvre fille qui s'était noyée elle-même ou, ce qui était beaucoup plus probable, avait été noyée par lui. Parmi toutes ses autres conquêtes, ce Will avait triomphé du cœur de Betty Seagrim. Il lui avait fait sa cour longtemps avant que Molly fût d'âge à lui servir de passe-temps. Il l'avait ensuite abandonnée et s'était adressé à sa sœur, auprès de laquelle il avait obtenu le plus prompt succès. Et en ce moment même, Will possédait réellement à lui seul le cœur de Molly, tandis qu'elle sacrifiait presque également Jones et Square à son orgueil et à son intérêt. De là cette haine implacable que nous avons vue dévorer le cœur de Betty, quoique nous n'ayons pas cru nécessaire de lui assigner plus tôt cette cause, l'envie étant plus que suffisante pour produire les mêmes effets. La découverte de ce secret mit Jones parfaitement à l'aise relativement à Molly. Mais il était loin d'être tranquille à l'égard de Sophie. Il était au contraire extrêmement troublé. L'ancienne garnison, si on me permet cette métaphore, était entièrement délogé de son cœur, et Sophie en prit une possession absolue. Il ressentait pour elle une passion sans bornes, et voyait clairement les tendres sentiments qu'elle avait pour lui. Cependant, cette assurance ne pouvait diminuer le désespoir où il était, en pensant qu'il n'obtiendrait jamais le consentement de son père, ni l'horreur qu'il ressentait à la seule idée de la posséder par des moyens bas ou perfides. L'outrage qu'il ferait à M. Weston, le chagrin qu'il causerait à M. Allworthy était des conséquences effrayantes qui le tourmentaient pendant le jour et le poursuivaient la nuit jusque dans son sommeil. Sa vie était un combat perpétuel entre son honneur et son inclination. L'un et l'autre triomphaient alternativement dans son cœur. Lorsque Sophie était absente, il prenait souvent la résolution de quitter la maison de son père et de ne plus la revoir. Et plus souvent, en sa présence, il oubliait sa résolution et se déterminait à suivre son penchant au péril de sa vie et de tout ce qui lui était plus cher encore. Ce combat intérieur produisit bientôt des effets violents et trop visibles, car il perdit toute la gaieté, toute la vivacité de son caractère, et devint non seulement mélancolique quand il était seul, mais abattu et distrait dans la société. Et si quelquefois il s'efforçait de paraître gai pour prendre le ton de M. Weston, la contrainte paraissait si évidente qu'il avait l'air de vouloir afficher ce qu'au contraire il faisait tous ses efforts pour cacher à tous les yeux. Je ne sais ce qui trahissait le plus son secret, ou de l'art qu'il employait pour cacher sa passion, ou des moyens dont la simple nature se servait pour la révéler. Car tandis que l'art le rendait plus réservé que jamais avec Sophie, lui défendait de lui adresser la parole, et lui ordonnait même d'éviter très soigneusement de rencontrer ses yeux, la nature n'était pas moins occupée à conjurer contre lui. À l'approche de Sophie, il devenait pâle, et quand cette approche était soudaine, il tressaillait. Si ses yeux rencontraient les siens par hasard, le sang lui montait au visage, et son teint devenait d'une couleur écarlate. Si la simple politesse l'obligeait quelquefois de lui parler ou de porter sa santé à table, il balbutiait infailliblement. S'il lui arrivait de la toucher, sa main et même tout son corps tremblaient. Et si quelque discours tendait, quoique indirectement, à lui rappeler l'idée de l'amour, un soupir involontaire ne manquait pas de s'échapper de son sein. La nature se montrait ingénieuse à faire naître chaque jour un grand nombre de ces accidents. Tous ces symptômes d'amour échappèrent à la vue de M. Weston, mais non à celle de Sophie. Elle aperçut bientôt toute l'agitation du cœur de Jones, et ne fut pas embarrassée d'en découvrir la cause. Elle la trouvait dans son propre cœur. C'est là, je suppose, le seul motif de sympathie qui a souvent été observé entre les amants, et qui explique assez pourquoi Sophie était plus clairvoyante que son père. Mais à vrai dire, il y a une méthode plus simple et plus claire pour expliquer cette prodigieuse supériorité de pénétration que l'on distingue dans quelques hommes, qui servira non seulement à juger tous les amants, mais tous les hommes en général. D'où vient qu'un fripon découvre si facilement jusqu'aux moindres apparences de friponnerie, qui trompe souvent un honnête homme, qui a d'ailleurs beaucoup plus d'esprit que lui. Il n'y a sûrement pas entre les fripons une sympathie universelle. Ils n'ont pas, comme les francs-maçons, un signe commun pour s'entendre. Le fait est qu'ils ont tous la même chose en tête et que leurs pensées n'ont toutes qu'un seul but. Il ne faut donc pas s'étonner que Sophie aperçût et que M. Weston n'aperçût pas les symptômes d'amour qui étaient trop visibles dans Jones. Si l'on considère que l'idée de l'amour n'était jamais entrée dans la tête du père, tandis qu'en ce moment, la fille ne pensait à rien autre chose. Quand Sophie fut bien convaincue de la passion violente qui tourmentait le pauvre Jones, et ne fut pas moins assurée qu'elle en était l'objet, elle n'eut pas de peine à découvrir la véritable cause de sa conduite actuelle. Il lui en devint plus cher, et fit naître dans son cœur deux des sentiments les plus tendres qu'un amant puisse souhaiter d'inspirer à sa maîtresse, je veux dire l'estime et la pitié. Car, sans doute, la femme la plus rigoureusement sévère lui pardonnera de plaindre un homme qu'elle voyait misérable à cause d'elle, et on ne la blâmera pas d'estimer celui qui, visiblement, et par les plus honorables motifs, tâchait d'étouffer dans son sein une flamme qui, comme le célèbre larcin fait à Sparte, lui déchirait et lui consumait les entrailles. Ainsi, l'indifférence de Jones, le soin qu'il prenait d'éviter Sophie, sa froideur, son silence, étaient ses plus actifs, ses plus diligents, ses plus chauds, ses plus éloquents avocats, et produisirent un effet si prompt sur le cœur tendre et sensible de cette jeune personne, qu'elle éprouva bientôt pour lui toutes les sensations agréables qui peuvent s'accorder avec la vertu et avec cette noble fierté qui, dans une femme, pour abréger tout ce que l'estime, la reconnaissance et la pitié peuvent inspirer à une telle femme pour un homme charmant, en un mot, tout ce que peut permettre la délicatesse la plus scrupuleuse, enfin, elle l'aimait à la folie. Un jour qu'ils se promenaient tous deux séparément dans le parc, il leur arriva de se rencontrer au détour de deux allées qui aboutissaient au canal, dans lequel Jones avait risqué de se noyer pour rattraper le petit oiseau de Sophie. Elle aimait depuis quelque temps à fréquenter cet endroit. Elle avait la douceur d'y rêver, avec un mélange de plaisir et de peine, à un accident qui, tout léger qu'il était, avait peut-être jeté les premières semences de cet amour qui s'était enraciné dans son cœur. C'est là que les deux jeunes gens se rencontrèrent. Ils se touchaient presque déjà avant de s'être aperçus qu'ils marchaient l'un vers l'autre. Un tiers aurait découvert sans doute leur confusion mutuelle, mais ils étaient trop émus pour s'observer l'un l'autre. Aussitôt que Jones fut un peu revenu de sa première surprise, il aborda Sophie après l'avoir saluée. Elle lui rendit son salut, et la conversation s'établit comme à l'ordinaire, sur la fraîcheur délicieuse de la matinée. Ils parlèrent ensuite de la beauté du lieu, auquel Jones prodigua les plus grands éloges. Lorsqu'ils arrivèrent près de l'arbre d'où il était autrefois tombé dans l'eau, Sophie ne put s'empêcher de lui rappeler cet accident, et lui dit « Je m'imagine, Monsieur Jones, que vous frissonnez un peu quand vous voyez ce canal. Je vous assure, madame, répondit Jones, que la crainte que vous ressentîtes de la perte de votre petit oiseau me paraîtra toujours la circonstance la plus intéressante de cette aventure. Ce pauvre petit Tommy, voilà la branche sur laquelle il était perché. Comment le petit misérable fit-il la folie de quitter cette heureuse existence que j'avais eu le bonheur de lui procurer? Sa malheureuse destinée fut une juste punition de son ingratitude. En vérité, monsieur Jones, dit-elle, votre courage n'a échappé qu'avec peine à un sort non moins fâcheux. Le seul souvenir doit vous en faire trembler. Moi, madame, répondit-il, ah, si j'ai quelque chose à regretter en cette occasion, c'est que l'eau n'ait pas été plus profonde. J'aurais peut-être échappé aux tourments affreux que la fortune semble m'avoir réservés. Mais vous n'y pensez pas, monsieur Jones, répliqua Sophie. Ce mépris affecté de la vie n'est qu'un excès de délicatesse. Vous voudriez tâcher de diminuer l'obligation que je vous ai d'avoir hasardé deux fois votre vie pour moi. Prenez garde à la troisième. Et elle prononça ces derniers mots avec un sourire et une douceur inexprimable. Jones répondit en soupirant qu'il craignait qu'il ne fût déjà trop tard, et la fixant avec un regard tendre, il s'écria « Oh, Miss Weston, pouvez-vous désirer que je vive? Pouvez-vous me souhaiter un mal aussi affreux ?» Sophie, baissant les yeux, répondit en hésitant un peu « Moi, Monsieur Jones, vous souhaitez aucun mal ?»« Oh ! S'écria Jones, je connais trop bien cette âme céleste, cette bonté divine qui est au-dessus de tous vos autres charmes. » « Mais, répondit-elle, je ne vous entends pas. Je ne puis demeurer davantage. Je ne voudrais pas être entendu, s'écria-t-il. Non, je ne peux pas l'être. Je ne sais ce que je dis. Vous rencontrant ici d'une manière si inattendue, je n'étais pas sur mes gardes. Pour l'amour du ciel, pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose qui ait pu vous offenser. Je n'en ai pas eu l'intention. En vérité, j'aimerais mieux être mort. Oui, la seule pensée me ferait mourir. Vous me surprenez, lui répondit-elle. Comment croyez-vous possible de m'avoir offensé? La crainte, madame, dit-il, dégénère aisément en folie. Et il n'y a pas de crainte égale à celle que j'ai de vous offenser. Que dois-je donc dire? Ah, de grâce, ne jetez pas sur moi des regards sévères. Un seul me tuerait. Je n'ai aucune intention. Blâmez mes yeux, ou plutôt blâmez ses charmes, que dis-je? Pardonnez si j'en ai trop dit, mon cœur était trop plein. J'ai combattu avec mon amour jusqu'à ce que les forces m'aient manqué. J'ai tâché longtemps de cacher la flamme qui me dévore, et qui bientôt, je l'espère, me mettra hors d'état de vous offenser jamais. Jones éprouva en ce moment un tremblement semblable à celui d'un violent accès de fièvre. Sophie, qui n'était pas dans une situation très différente de la sienne, lui répondit en ces mots. « Monsieur Jones, je n'affecterai pas de ne point vous entendre. Je vous entends trop bien. Mais au nom de Dieu, laissez-moi retourner au château. Et puissiez-je avoir la force de me soutenir jusque-là. » Jones, qui lui-même se soutenait à peine, lui offrit son bras, qu'elle voulut bien accepter, en le priant d'abandonner ce sujet pour le moment. Il le lui promit. Il insista seulement pour qu'elle lui pardonnât ce que l'amour lui avait arraché involontairement. « Vous savez bien, lui dit-elle, qu'il vous est facile d'obtenir ce pardon, par votre conduite future. » C'est ainsi que, chancelant et tremblant à chaque pas, ces deux jeunes gens arrivèrent au château, l'amant n'osant pas une seule fois serrer la main de sa maîtresse, quoiqu'il l'atteint dans la sienne. Sophie se retira aussitôt dans sa chambre, où Mrs. Honora et quelque peu d'essence de corne de serre la secoururent. Quant au pauvre Jones, le seul soulagement que reçut son cœur malade fut la plus triste nouvelle qu'on put lui apprendre. Mais comme elle commence une scène toute différente de celle que le lecteur vient de voir, nous la réservons pour le chapitre suivant. Chapitre 7. Maladie grave de M. Allworthy. M. Weston avait pris tant d'amitié pour Jones qu'il ne voulait plus s'en séparer, quoiqu'il y eût déjà quelque temps que son bras fût guéri. Et Jones, soit par amour pour la chasse, soit pour quelque autre motif, se laissa persuader aisément de demeurer dans son château. Il y passait quelquefois jusqu'à 15 jours de suite, sans aller une seule fois chez M. Allworthy, et sans même s'informer de ce qui se passait chez lui. M. Allworthy avait été pendant quelques jours incommodé d'un rhume, suivi d'un peu de fièvre. Il l'avait cependant négligé, car c'est ainsi qu'il se conduisait dans toutes les indispositions qui ne le retenaient pas au lit, ou ne l'empêchaient point de vaquer à ses occupations ordinaires. Conduite que nous nous gardons bien d'approuver ou de recommander comme un exemple à suivre. Car sûrement, les disciples d'Esculape sont en droit de dire qu'aussitôt que la maladie entre par une porte, il faut introduire le médecin par l'autre. C'est ce que signifie ce vieil adage « Venienti occurrite morbo » « Opposez-vous au mal sitôt qu'il se présente ». Par ce moyen, la maladie et le médecin se trouvent de force à combattre ensemble, au lieu qu'en donnant du temps à la maladie, nous la laissons se fortifier et se retrancher, en sorte que le plus habile homme trouve très difficile et quelquefois impossible de parvenir jusqu'à l'ennemi. Souvent même, la maladie, par une espèce de ruse de guerre, s'empare de la nature qui lui donne une force de plus, et tous les remèdes de la médecine arrivent alors trop tard. Ces observations sont d'accord, autant que je me le rappelle, avec les opinions du savant docteur Misaubin, qui avait coutume de se plaindre très pathétiquement qu'on l'envoyait toujours chercher trop tard. « Pardieu, disait-il, je crois que mes malades me prennent pour un entrepreneur de funérailles. Ils ne m'envoient jamais chercher que quand la maladie les a tués. » Par cette négligence, la maladie de M. Allworthy fit tant de progrès que quand l'augmentation de la fièvre l'obligea d'envoyer chercher du secours, le docteur, à son arrivée, secoua la tête, disant qu'il aurait souhaité qu'on fût venu le chercher plus tôt, et laissa entendre qu'il le croyait dans le danger le plus imminent. M. Allworthy, qui avait mis ordre à toutes ses affaires dans ce monde, et était aussi bien préparé pour l'autre que cela est possible à l'humaine nature, reçut cet avertissement avec calme et indifférence. Il pouvait, tous les soirs, en se couchant, dire comme Caton dans la tragédie de ce nom, que le crime ou la peur trouble le cœur de l'homme, Caton est innocent, ne craint point l'avenir. Il est égal pour lui de dormir ou mourir. Et certes, il pouvait parler ainsi avec 10 fois plus de raison et de confiance que Caton ou tout autre héros aussi orgueilleux, tant ancien que moderne. Car non seulement il était inaccessible à la crainte, mais on pouvait le comparer à un laboureur diligent et fidèle qui, après la moisson, va recevoir sa récompense des mains d'un maître généreux. L'excellent homme ordonna aussitôt qu'on avertisse sa famille de se rendre auprès de lui. Aucun de ses parents n'était alors absent, excepté Mrs. Blifil, qui avait été passée quelque temps à Londres, et M. Jones, que le lecteur vient de laisser chez M. Weston, et qui reçut cet avertissement au moment que Sophie venait de le quitter. Cette nouvelle du danger que courait M. Allworthy, car le domestique lui avait dit qu'il était à la mort, ne lui permit plus de penser à son amour. Il se précipita dans la voiture qu'on lui avait envoyée et ordonna au cocher de le mener aussi vite qu'il serait possible. Et j'ai tout lieu de croire qu'il ne pensa pas une seule fois à Sophie pendant toute la route. Toute la famille s'étant assemblée autour du malade, savoir M. Blifil, M. Jones, M. Thwackum, M. Square et quelques-uns des domestiques, car tels étaient ses ordres, le digne homme se leva sur son séant et allait commencer à parler quand M. Blifil se mit à pleurer de toutes ses forces et à faire entendre les plus violentes et les plus amères lamentations. M. Allworthy le prit par la main et lui dit « Ne vous chagrinez pas ainsi, mon cher neveu, pour le plus ordinaire de tous les événements humains. C'est avec justice que nous pleurons les malheurs qui tombent sur nos amis. Ce sont souvent des accidents qu'ils auraient pu éviter et qui paraissent rendre le sort d'un homme plus particulièrement malheureux que celui d'un autre. Mais la mort est inévitable. C'est un lot commun à tous les hommes, quelle que soit leur distinction dans cette vie. Peu importe le temps où elle arrive. Si le plus sage des hommes a comparé l'étendue de la vie à celle de la paume de sa main, à plus forte raison devons-nous la considérer comme un jour. Je suis arrivé au soir de ce jour, et il me faut vous quitter. Mais ceux qui ont été enlevés avant moi n'ont perdu que quelques heures, bien peu dignes d'être regrettées, et beaucoup plus souvent des heures de travail et de fatigue, de peine et de douleur. Un des poètes romains, je me le rappelle, compare notre sortie de la vie au départ d'un festin. Cette pensée s'est souvent présentée à moi quand j'ai vu des hommes se débattant contre la mort pour prolonger leur plaisir et pour jouir quelques moments de plus de la société de leurs amis. Hélas, quelle est courte la prolongation la plus étendue de ce plaisir! Quelle est peu importante la différence entre celui qui se retire le premier et celui qui demeure le dernier! Cette répugnance à quitter nos amis est sans doute le motif le plus respectable auquel on puisse attribuer la crainte de la mort. C'est assurément considérer la vie sous son plus beau point de vue. Cependant, la plus longue jouissance de cette espèce que nous puissions espérer est d'une si courte durée qu'un homme sage doit la mépriser. Je conviens que peu d'hommes pensent de cette manière, puisqu'il est trop vrai qu'un très petit nombre d'entre eux seulement pensent à la mort avant de se sentir entre ses bras. C'est pour eux un objet monstrueux et terrible, et néanmoins ils n'osent la considérer, à quelque distance que ce soit. Quoiqu'ils n'aient jamais été si alarmés que lorsqu'ils se sont vus en danger de mourir, leur crainte cesse aussitôt que le danger n'est plus. Hélas, celui qui a échappé à la mort n'a pas cependant obtenu sa grâce tout entière, mais seulement un sursis, et un sursis bien court. Ne pleurez donc pas davantage, mon cher enfant. Un événement qui peut nous arriver à toute heure, que chaque élément, que dis-je, que chaque particule de matière qui nous environne peut amener, qui doit enfin nous atteindre, et nous atteindra tous inévitablement tôt ou tard, ne doit nous causer ni surprise ni regret. Mon médecin m'ayant informé, ce dont je le remercie, que je suis en danger de vous quitter bientôt, j'ai voulu converser un peu avec vous avant que ma maladie, qui, je le sens, est prête à m'accabler, m'en ôte le pouvoir. Mais je ne veux point user le peu de force qui me reste. Je désire seulement vous entretenir au sujet de mon testament. Il est fait depuis longtemps. Je me bornerai à vous faire connaître ce qui concerne chacun de vous, afin que je puisse avoir, avant de mourir, la consolation de vous voir tous satisfaits. Mon neveu Blifil, je vous laisse héritier de toute ma fortune, à l'exception de 500 livres sterling par année, qui vous reviendront à la mort de votre mère. J'en accepte encore une terre de 500 livres sterling de revenus et une somme de 6000 livres sterling que j'ai distribuée de la manière suivante. C'est à vous, Monsieur Jones, que je donne la terre de 500 livres de revenus. Et comme je connais les inconvénients de manquer d'argent comptant, j'y ai ajouté 1000 livres en espèces. Je ne sais si vos espérances se trouvent trompées en plus ou en moins. Peut-être penserez-vous que je vous donne trop peu. Le monde sera peut-être tout aussi prompt à me blâmer de vous avoir trop donné. Mais je méprise la censure du monde. Et quant à vous, à moins que vous ne soyez dans l'erreur commune que j'ai souvent entendu servir d'excuse à ceux qui voulaient se dispenser d'être bienfaisants, savoir que les actes de bonté faits volontairement, au lieu d'exciter la reconnaissance, donnent lieu à de nouvelles demandes sans bornes, qu'il est impossible de satisfaire, pardonnez-moi cette simple observation. Je ne soupçonne de vous rien de semblable. » John se précipita aux pieds de son bienfaiteur, et se saisissant de sa main, qu'il serra tendrement, il l'assura que sa bonté pour lui, non seulement dans cette circonstance, mais dans tous les temps, avait si prodigieusement surpassé son mérite et ses espérances, qu'il ne trouvait pas assez d'expression pour lui en marquer sa reconnaissance. « Je vous assure, monsieur, dit-il, que je suis moins touché de votre générosité que de la malheureuse circonstance. Oh, mon ami, mon père !» Ici, la voix lui manqua, et il se détourna pour cacher les larmes qui coulaient de ses yeux. Monsieur Allworthy, à son tour, lui serra tendrement la main et continua en ces termes. « Je suis convaincu, mon enfant, que vous avez beaucoup de bonté, de générosité et d'honneur. Si vous voulez y joindre la sagesse et la religion, vous serez heureux. Les trois premières qualités vous rendent digne du bonheur, les deux dernières seulement vous en feront jouir. Monsieur Thwackum, je vous donne 1000 livres sterling, et je suis convaincu que cette somme excède de beaucoup vos désirs ainsi que vos besoins. Cependant, vous les recevrez en mémoire de mon amitié. Je m'en rapporte à votre sévère piété pour disposer convenablement de votre superflu si vous en avez. Monsieur Square, je vous lègue une somme pareille. J'espère qu'elle vous servira à suivre, avec plus de succès qu'auparavant, la profession que vous avez embrassée. J'ai souvent observé avec peine que la misère excite plutôt le mépris que la pitié, surtout aux yeux des gens riches, qui concluent presque toujours qu'un homme pauvre est un homme dépourvu de talent. Mais le peu que j'ai été en état de vous laisser vous débarrassera de ces difficultés qui ont fait jusqu'ici votre malheur, et je ne doute point qu'alors vous ne jouissiez d'une prospérité suffisante pour fournir à tous les besoins d'un philosophe comme vous. Je me sens extrêmement faible. Ainsi, je m'en réfère à mon testament pour toutes les autres dispositions qu'il contient. Mes domestiques y trouveront des motifs pour se ressouvenir de moi. Il y a en outre quelques charités que, j'espère, les exécuteurs de mon testament acquitteront avec fidélité. Je vous donne à tous ma bénédiction. Je pars quelques moments avant vous. Alors un domestique entra précipitamment dans la chambre et dit qu'il venait d'arriver un homme de loi de Salisbury, chargé d'un message secret, qu'il ne pouvait, disait-il, communiquer à d'autres qu'à M. Allworthy lui-même, qu'il paraissait être très pressé, et protestait qu'il avait tant d'affaires à terminer à la fois, que quand il se mettrait en quatre, à peine pourrait-il les finir à temps. « Allez, mon enfant, dit M. Allworthy à Blifil, voyez ce que veut cet homme. Je suis hors d'état d'entendre parler d'affaires, et personne ne peut en avoir avec moi dans lesquels vous ne soyez maintenant plus intéressé que moi-même. D'ailleurs, je suis incapable de voir quelqu'un, ni même d'une plus longue attention en ce moment. » Il ordonna donc une seconde fois que tout le monde se retirât, disant qu'il avait besoin de se remettre, et qu'il s'était un peu trop épuisé à parler. Plusieurs de ceux qui étaient présents versèrent des larmes en se retirant. Et même le philosophe Square essuya ses yeux, quoique étranger à cet usage. Quant à Mrs. Wilkins, les siennes tombaient goutte à goutte comme la gomme des arbres de leur habit. C'était une cérémonie qu'elle n'omettait jamais dans les occasions convenables. Quand tout le monde se fut retiré, M. Allworthy se remit sur son oreiller et tâcha de prendre quelque repos. Chapitre 8. Contenant des choses plus naturelles qu'agréables. La douleur de perdre son maître n'était pas l'unique source de ce ruisseau salé qui coulait si abondamment le long des deux os pointus qui soutenaient ci-devant les joues de Mrs. Wilkins. Elle ne fut pas plus tôt retirée qu'elle commença à murmurer tout bas de cette agréable manière. Il me semble que mon maître aurait dû faire quelque différence de moi aux autres domestiques. Je suppose qu'il m'a laissé de quoi faire mon deuil. Mais, en vérité, si c'est là tout, le diable pourra le porter pour moi. Je voudrais bien que M. Allworthy se fût souvenu que je ne suis point accoutumé à recevoir l'aumône. Je n'ai mis de côté que 500 livres sterling à son service, et après tout cela, il me traite de cette manière. C'est un bel encouragement qu'il donne aux domestiques, pour être honnête. Et sûrement, si j'ai pris quelque chose de temps en temps, d'autres en ont pris 10 fois davantage. Et aujourd'hui, on ne fait pas de différence entre nous. S'il en est ainsi, le legs peut bien aller au diable avec le testateur. Mais non, je ne veux pas y renoncer. Cela ferait trop de plaisir à quelques personnes. Non, j'en achèterai une robe de la couleur la plus gaie que je pourrais trouver, et je m'en habillerai pour aller danser sur le tombeau de ce vilain avare. Et voilà donc ma récompense pour avoir si souvent pris son parti quand tout le comté criait contre lui de ce qu'il élevait son bâtard de cette manière. Mais il va dans un lieu où on lui fera payer cher tout cela. Il aurait mieux valu pour lui se repentir de ses péchés sur son lit de mort que de s'en glorifier, en donnant une terre qui lui vient de sa famille à un enfant trouvé, trouvé dans son lit encore. Une jolie histoire. Ah ah, ceux qui l'avaient caché savaient bien où il le retrouverait. Que le ciel lui pardonne. Mais je suis sûr qu'on lui découvrirait encore d'autres bâtards si la vérité était connue. Ma consolation est qu'ils seront tous connus dans le lieu où il va. Les domestiques trouveront des motifs de se ressouvenir de moi. Ce sont ses propres mots. Voilà ce que je n'oublierai jamais quand je devrai vivre 1000 ans. Ah ah, je me ressouviendrai de vous pour avoir été confondu avec les domestiques. » On aurait pu croire qu'il aurait fait nominativement mention de moi, comme il a fait de Square, mais ce Square est un monsieur. Oui, quoiqu'il n'eût pas d'habit sur son dos la première fois qu'il vint ici. Au diable de tels messieurs! Quoiqu'il demeure ici depuis un grand nombre d'années, je ne crois pas qu'il y ait dans la maison un seul domestique qui ait vu la couleur de son argent. Que le diable emporte un monsieur de cette espèce. Elle s'en dit encore beaucoup davantage à elle-même sur ce ton, mais ce que nous avons rapporté suffira au lecteur. Quoique Thwackum et Square n'exprimassent pas leur ressentiment avec tant d'aigreur, ils n'étaient pas plus contents de leur legs que Mrs. Wilkins. Ce que nous concluons du mécontentement qui paraissait sur leur visage, non moins que du dialogue suivant. Une heure après qu'ils eurent quitté la chambre du malade, Square rencontra Thwackum dans une des salles et l'accosta en lui parlant à ces termes. « Eh bien, monsieur, avez-vous appris quelques nouvelles de votre ami depuis que nous l'avons quitté ?»« Si vous voulez parler de M. Allworthy, répondit Thwackum, il me semble que ce serait à plus juste titre que vous devriez l'appeler votre ami. Je crois qu'il l'a bien mérité. »« Il le mérite bien aussi de votre part, » répliqua Square, « puisque sa bonté nous traite tous deux également. » « Je ne vous en aurais pas parlé le premier, » s'écria Thwackum. « Mais puisque c'est vous qui commencez, je dois vous dire que je suis d'une opinion toute contraire. Il y a une prodigieuse différence à faire entre des faveurs volontaires et des récompenses. Les services que j'ai rendus à sa famille, le soin que j'ai pris de l'éducation de ses deux enfants, sont tels que j'aurais dû m'attendre à être mieux récompensé. N'imaginez pas cependant que je sois mécontent. Car saint Paul m'a enseigné à être content du peu que je possède. Ce peu aurait-il encore été moindre, j'aurais su quel était mon devoir. Mais quoique l'Écriture m'oblige de me contenter de peu, elle ne m'enjoint pas de fermer les yeux sur mon propre mérite, ni ne m'empêche de voir l'affront que l'on me fait par une injuste comparaison. « Puisque vous me provoquez, répliqua Square, c'est à moi que l'affront est fait. Je n'aurais jamais imaginé que M. Allworthy eût fait assez peu de cas de mon amitié pour me mettre en balance avec un homme à ses gages. Mais je sais à qui je suis redevable de cette injustice. Elle provient de ces principes étroits que vous avez pendant si longtemps tâché de lui inspirer au mépris de tout ce qui est grand et noble. La beauté, le charme de l'amitié blessent des yeux faibles et ternes comme les vôtres, et ne peuvent être aperçus et sentis que par le secours de cette règle inaltérable de la justice, que vous avez fait de si fréquents efforts pour ridiculiser, au point que vous êtes enfin parvenu à pervertir le jugement de votre ami. « Je désirerais bien, » s'écria Thwackum en fureur, « je souhaiterais bien pour le salut de son âme que votre damnable doctrine n'eût point perverti sa foi. C'est à vos principes que j'attribue sa conduite présente, si peu convenable à un chrétien. Quel autre qu'un athée pourrait penser à quitter ce monde sans avoir d'abord rendu ses comptes à Dieu, sans avoir confessé ses péchés, sans avoir reçu l'absolution, quand il avait dans le château un homme qu'il savait être dûment autorisé à la lui donner. Il en sentira la nécessité quand il sera trop tard, quand il sera arrivé dans ce lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ce sera alors qu'il verra quelle belle place lui aura obtenue cette divinité païenne, cette vertu que vous adorez, vous et tous les autres déistes du siècle. Alors, il faudra trouver un prêtre, et il n'en trouvera pas, et il pleurera de n'avoir pas eu cette absolution, sans laquelle aucun pécheur ne peut être sauvé. Si cette absolution est essentielle, dit Square, que ne la lui proposez-vous vous-même? Elle n'a de vertu, s'écria Thwackum, que pour ceux qui ont la grâce suffisante pour la demander. Mais pourquoi parlais-je à un païen et à un incrédule? C'est vous qui lui avez appris à être l'un et l'autre. Vous en avez été bien récompensé dans ce monde, et je ne doute point que votre disciple ne le soit aussi bien dans l'autre. Je ne sais pas ce que vous entendez par récompense, dit Square, mais si vous entendez par là cette pitoyable marque d'amitié qu'il a jugé convenable de me laisser, sachez que je la méprise, et qu'il n'y a que la situation malheureuse de ma fortune qui puisse me faire accepter un legs aussi misérable. Le médecin arriva sur ces entrefaites et demanda à nos deux disputeurs « Comment cela va-t-il là-haut » « Mal, répondit Thwackum. « C'est à quoi je m'attendais, s'écria le docteur. Mais, je vous prie, quels symptômes ont paru depuis que je vous ai quitté ?»«
Aucun bon, je le crains, reprit Thwackum. Après ce qui s'était passé quand nous sommes partis, je pense qu'il n'y avait plus guère d'espérance. Le médecin du corps comprit peut-être mal le médecin de l'âme. Et avant qu'ils eussent eu le temps de s'expliquer, M. Blifil s'avança vers eux avec la contenance la plus triste et les informa qu'il apportait de mauvaises nouvelles, que sa mère était morte à Salisbury. Qu'en revenant de Londres, elle avait été prise de la goutte dans la tête et dans l'estomac, et qu'elle en avait été étouffée en quelques heures. « Malheureux jour !» s'écria le docteur. « On ne peut répondre des événements. Mais que n'ai-je été à portée d'être appelé auprès d'elle ? La goutte est une maladie très difficile à traiter. Il est cependant à remarquer que je l'ai toujours guérie. » Thwackum et Square firent tous deux à M. Blifil leurs compliments de condoléances sur la perte de sa mère. L'un lui conseillant de supporter ce malheur en homme et l'autre en chrétien. Le jeune homme répondit qu'il savait très bien que nous étions tous mortels et qu'il tâcherait de supporter cette perte aussi courageusement qu'il lui serait possible. Qu'il ne pouvait cependant s'empêcher de se plaindre un peu de l'étrange sévérité du destin qui l'accablait en lui apprenant des nouvelles si malheureuses, et cela au moment où il allait peut-être recevoir le coup le plus funeste. Il dit que l'occasion présente allait être la véritable pierre de touche de ces excellentes instructions qu'il avait reçues de M. Thwackum et de M. Square, et que ce serait à eux qu'il serait entièrement redevable de la force de survivre à tant de malheurs à la fois. On débattit aussitôt la question de savoir s'il fallait informer M. Allworthy de la mort de sa sœur. Le docteur s'y opposa fortement, et toute la faculté aurait été de son avis. Mais M. Blifil dit qu'il avait reçu de son oncle des ordres si positifs et si répétés de ne lui cacher aucun secret, par la crainte de l'inquiéter, qu'il n'osait penser à lui désobéir, quelle qu'en pût être la conséquence. Il dit que, quant à lui, considérant le caractère philosophique et religieux de son oncle, il ne pouvait partager les craintes du docteur, qu'il était conséquemment résolu de lui apprendre la triste nouvelle, car si son oncle en réchappait, comme il le demandait à Dieu avec ferveur, il était sûr qu'il ne lui pardonnerait jamais d'avoir voulu lui cacher un secret de cette nature. Le médecin fut forcé de se soumettre à cette résolution que les deux autres savants personnages louaient excessivement. M. Blifil et le docteur se rendirent donc ensemble à la chambre de M. Allworthy. Le médecin entra le premier, s'approcha du lit, et après avoir tâté le pouls du malade, déclara qu'il était beaucoup mieux, que le dernier remède avait heureusement réussi et rendu la fièvre intermittente. En sorte qu'il paraissait y avoir maintenant aussi peu de danger qu'il craignait auparavant qu'il n'y eût peu d'espérance. À dire vrai, la situation de M. Allworthy n'avait jamais été aussi dangereuse qu'il avait plu à l'extrême prudence du docteur de la représenter. Mais comme un sage général ne méprise jamais son ennemi, quelque inférieure que puisse être la force de celui-ci, un sage médecin ne méprise jamais une maladie, quelque légère qu'elle paraisse. Comme le premier conserve la même discipline, place les mêmes sentinelles, emploie les mêmes vedettes, quelle que soit la faiblesse de l'ennemi, le second garde la même gravité dans son maintien, secoue la tête avec le même air significatif, quelle que soit la faiblesse du danger. Et tous deux, parmi un grand nombre de bonnes raisons, peuvent apporter, en faveur de leur conduite, celle-ci, qui n'est pas la moins solide de toutes, c'est que par ces moyens, il leur en revient plus de gloire s'ils remportent la victoire, et moins de honte s'il leur arrive malheureusement le contraire. M. Allworthy n'eut pas plutôt levé les yeux au ciel pour le remercier des espérances qu'on venait de lui donner, que M. Blifil s'approcha de lui avec un visage très abattu, et, ayant mis son mouchoir sur ses yeux, soit pour essuyer ses larmes, soit pour faire comme Ovide le conseil quelque part dans une autre occasion, « Si nullus erit tamen excute nullum », s'il n'en vient pas essuyer-les toujours, il communiqua à son oncle ce que le lecteur venait d'apprendre. M. Allworthy reçut cette nouvelle avec douleur, patience et résignation. Il versa une larme de tendresse, puis, reprenant sa sérénité, il s'écria, « que la volonté du Seigneur soit faite en toutes choses. » Il demanda à voir l'homme de loi qui était venu de Salisbury, mais Blifil lui dit qu'il avait été impossible de le retenir un seul moment, qu'il paraissait si pressé qu'il avait sans doute quelque affaire de grande importance, qu'il s'était plaint d'avoir trop de choses à faire à la fois, que cela le dérangeait extrêmement, et qu'il avait répété que quand il se mettrait en quatre, il ne pourrait jamais les finir à temps. M. Allworthy remit à Blifil le soin des funérailles de sa mère et dit qu'il désirait qu'on la déposât dans sa chapelle. Quant aux détails, il les lui laissa régler, en lui indiquant seulement la personne qu'il désirait qu'on employât en cette occasion.